votre passion du moment, les pizzas au feu de bois. Margarita, pepperoni, truffe. Heureusement qu'avec l'abonnement Deliveroo Plus, les frais de livraison sont offerts. Comme ça, vous pouvez toutes les goûter, même les calzones. Si, si, ça compte aussi comme une pizza. En ce moment, l'abonnement Deliveroo Plus est à seulement 90 centimes d'euros par mois pendant 6 mois. Deliveroo, ah, là on est bien. Offre réservée aux clients n'ayant jamais été abonnés à Deliveroo Plus, à activer jusqu'au 13 octobre 2024. Conditions de l'offre sur deliveroo.fr/fr/terms et des abonnements sur le site Deliveroo. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
LSD, la série documentaire. Un podcast France Culture.
J'aimerais beaucoup lancer un appel pour tous ces gens qui détiennent le pouvoir et tous ces gens qui ont les derniers mots dans le pays, vraiment de pouvoir vraiment nous donner ne serait-ce qu'un seul abri pour vraiment passer les nuits. Quelqu'un qui n'a pas d'abri, il est comme quelqu'un qui est mort, qui n'a pas d'avenir, qui n'a pas vraiment de protection. Depuis que nous, on nous a relâché à Tolbiac en disant qu'on n'était pas des mineurs, qu'il fallait confirmer, il fallait envoyer des documents qui confirment. Et on a fait tout ce que le gouvernement a demandé. Aujourd'hui, tout ce qu'ils ont trouvé de mieux, c'est de nous donner des longues dates pour attendre à passer devant monsieur ou madame le juge. Pendant ce moment, nous, on se pose la question de savoir d'où on va mettre nos têtes. Parce que parmi nous, il y a ceux qui ont besoin d'aller à l'école, continuer les études. Parmi nous, il y a ceux vraiment qui ont des problèmes de santé. Donc, du coup, je tiens à dire merci d'abord à toutes ces associations qui donnent leur temps au quotidien pour nous, qui font des efforts pour qu'on renforce la société française de demain et que vraiment on devienne des hommes qui peuvent aussi se placer au milieu des gens et dire un mot et qu'on puisse entendre.
Jeunesse africaine en exil, épisode 3. Ni mineurs ni majeurs, des enfants à la rue. Raphaël Kraft, David Jakubovière.
Pourquoi tout ça? La France, ce sont des méchants. La fraternité là, on dit en France, la fraternité, où est-ce que fraternité là? On ne voit pas la fraternité.
Les étrangers comme nous, nous sommes des mineurs isolés. On a tous nos papiers. On refuse de reconnaître.
On refuse de reconnaître.
On te refuse dedans, on te refuse
dedans. On les papiers, on refuse de reconnaître. Et t'as mineur, on a tué qui? Qu'est-ce qu'on a fait pour me dire tout ça? C'est pas normal. On fait dormir des mineurs à la rue. C'est pourquoi on est où maintenant? C'est pour aller où?
Nous, ce phénomène-là des mineurs par centaines en campement dans les rues de Paris nous est un peu
Paul Allozy,
tombé dessus.
Coordinateur Médecins du Monde Paris.
On a une mission qui d'habitude intervenait sur les campements justement intégralement, mais qui étaient des campements majoritairement de majeurs, voilà, d'hommes entre 20, 25 ans, 30 ans max, enfin des gars de mon âge en fait finalement. Et dès qu'on croisait des mineurs, et ben voilà, on avait un autre programme à Médecins du Monde vers lesquels les orienter, et ils rentraient plus rapidement dans des circuits avec d'autres assos comme les Midis du Mi, Paris d'Exil, la Timi, qui vont Utopia, leur trouver des hébergements, organiser des places en squat, des places avec des assos, des places dans des paroisses, enfin voilà, des lieux où on pouvait sortir les jeunes de la rue. Il y en a toujours eu hein, dans la rue, mais c'était pas aussi majeur. On n'avait pas des campements de plusieurs centaines, on n'avait pas 1200 jeunes cachés dans les rues de Paris, sous les ponts, à droite, à gauche. Ça a vraiment explosé, je dirais, juste après le Covid, et nous, on a dû se réorganiser. La moitié de nos activités qui étaient dédiées aux majeurs, on a dû les réorganiser vers les mineurs pour intervenir dans des lieux qui leur sont pertinents, avoir des moments où on est sûr de n'intervenir que pour eux aussi, parce que c'est quand même une population particulièrement vulnérable, et aussi avoir des nouveaux bénévoles, justement, qui sont spécialisés des mineurs, qui vont avoir cette attention particulière. Et en fait, là, ça fait un an et demi qu'à Paris, la majorité des personnes qui sont à la rue dans les campements qu'on peut voir de tentes que je suis en dessous des ponts de la capitale, ce sont des mineurs non accompagnés.
Il y a un arrêté qui a été pris par le préfet de police pour évacuer les lieux.
Pourquoi ?
Parce que c'est comme ça. Le préfet de police a pris la décision de le faire. Donc il faut partir, que sinon on va être obligé d'employer la force. Donc ce qui n'est pas ce qu'on veut. D'accord ? Prenez vos affaires, on vous laisse le temps de le prendre.
Beaucoup de policiers, nous, n'est pas assassins.
Non, mais je sais pas.
Ah, non, non, n'est pas très bien. Il n'y a pas de solution. Nous, on est venus là pour dormir dans la rue. Il y a des galères. Après, tu es venu là pour nous, on est quitté ici. Après, tu es quitté ici. Tu pars où pour dormir? Ça fait longtemps, nous, on est là ici. Ah, c'est...
Nous, on, ce que vous dit là, le lieu, sur décision du préfet de police, va être évacué maintenant. On vous laisse le temps de prendre vos affaires. Mettez-vous en marche, parce que plus vous traînez, plus ça va être compliqué. D'accord ?
Il faut se figurer l'impossibilité d'exister physiquement dans l'espace public. Et c'est dur à avoir en tête, parce qu'on va dire, mais les associations, vous criez au loup, tout ça. Non, on le documente, on a des centaines de témoignages, on a des données là-dessus. C'est l'impossibilité d'exister physiquement, c'est-à-dire que vous vous installez quelque part, la police débarque, comme à la mi-décembre, des fois avec la BRAVEM, la brigade de répression de l'action violente motorisée. Ces mots, ils ont de l'importance parce qu'on parle d'enfants à la rue, et on envoie la BRAVEM pour dégager des jeunes qui vont partir d'un pont où ils sont, à Pont-Marie, qui vont aller sous un autre pont, et on va les dégager toute la nuit, encore et encore, pour qu'ils aillent le plus loin possible de la capitale. C'est la première problématique, c'est celle-là. C'est le fait qu'ils ne doivent pas être visibles et qu'ils ne doivent pas exister.
Autorise, ça va pas aller, mais Inch'Allah, demain, ça va aller.
Ce que je vous dis, c'est qu'il y a un arrêté qui a été pris, le tunnel va être évacué.
Et Inch'Allah, demain, ça va aller.
Quand vous nous chassez, c'est pourquoi vous avez prévu un logement pour nous?
Non, il n'y a pas de...
Bon, monsieur, il n'y a pas de logement, vous nous chassez. Vous nous chassez, c'est pourquoi on ne connaît pas où aller. Monsieur, mettez vos enfants à nos places. Si vous faites ça à vos enfants, monsieur, ça va vous plaire.
Si ça va vous plaire, normalement, vous devez nous loger.
Monsieur, nous avons traversé plus pire que ça. Moi, avant d'arriver ici en France, moi j'ai fait trois naufrages.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte de cette évacuation du tunnel Viau la dernière quinzaine de mars 2024?
Donc le 19 mars, c'était un mardi, la préfecture de police publie un arrêté en disant on va évacuer ce tunnel, il y a 74 tentes. Et il y a donc tous les périls possibles et inimaginables. Il y a un péril de crue, c'était pas le cas pendant quasiment 30 jours, quand on regardait les prévisions. Il y a un péril incendie, il y a un péril d'obstruction du passage et donc d'accident avec les passants et les habitants du 12e. Enfin voilà, c'était sur la procédure juridique, il y avait les 5 plaies d'Égypte, quoi. Je pense qu'il manquait plus que les sauterelles et c'était bon. Et donc ils disent, voilà, les habitants ont 48 heures pour partir. Rendez-vous compte que rien que ça, c'est un peu une victoire pour nous de se dire, ah, on a 48 heures pour prévenir les jeunes, pour essayer de repérer un autre lieu pour s'organiser. Évidemment, en deçà de ces 48 heures, au bout de 24 heures, la police débarque. Donc nous, on se lève à 6 heures du matin et on se rend aux côtés des jeunes.
Alors, ça fait moins de 24 heures, donc vous êtes totalement en dehors du droit. J'aimerais bien qu'à un moment donné, ça résonne. On parle de gamins qui ont traversé le monde pour arriver ici, qui vivent à la rue. Une grande majorité d'entre eux vont être reconnus mineurs par un juge des enfants. Mettre ces jeunes en errance, c'est espérer quoi? Vous avez rien à dire? Rien.
Et donc il y avait à peu près 120 mineurs qui survivaient dans ce tunnel. Et donc en deçà des 48 heures, ils se font dégager, on leur dit de partir, voilà. Et on leur demande de trouver un autre lieu où aller, encore une fois. Personne ne souhaite que des mineurs survivent là sur les quais de Seine, mais en fait, si on leur donne aucun autre endroit où aller, évidemment qu'ils restent là, quoi.
Et où vont-ils, justement, lorsqu'ils sont expulsés?
En fait, au bout d'un moment, ce qu'il leur reste, c'est juste des cachettes. Et ça, c'est le lot des mineurs, mais aussi des majeurs. C'est tous les exilés qui sont dans les rues de Paris. Moi, j'avais un patient iranien qui me disait... il avait trouvé un lieu à la porte de la Villette qui est complètement immonde, à côté de la place Auguste Baron, qui est un grand trou en ciment dans lequel il y a plein de déchets depuis des années. Il m'avait expliqué qu'il dormait là, parce qu'il me disait c'est tellement sale qu'ici, la police ne vient pas. Et en fait, c'est à ce niveau-là quand même que nous, on récupère les patients, c'est que les gens préfèrent dormir à des endroits où les rats ne dorment pas parfois, parce que c'est le seul lieu où ils vont pas se faire chasser et où ils ont le droit d'exister dans l'espace public. Pour nous, ça fait qu'on doit tout le temps réadapter nos maraudes, réadapter nos méthodes d'intervention, et on perd le lien de, je pense, beaucoup, beaucoup de personnes.
Cette situation de jeunes dont on dénie la minorité se retrouve dans une situation de nini, ni majeur, ni mineur, et donc... Les uns arguent qu'ils sont mineurs, donc on s'en occupe pas, et les autres arguent, mais non, ils sont majeurs, donc on s'en occupe pas.
Voilà, c'est très simple. L'État, il dit, c'est des mineurs, la mairie de Paris, vous nous embêtez tout le temps avec les personnes à la rue, ceux-là, c'est les vôtres, vous vous débrouillez. Et la mairie de Paris dit, non, non, sur le papier, pour nous, ils sont majeurs. Et puis l'État, vous avez beaucoup plus de moyens, c'est à vous de le faire. Donc c'est le ni-ni, les acteurs se renvoient la balle, et au milieu, il y a des gamins, quoi.
Moi j'avais mon sac là-bas, tous mes effets étaient là-bas et ils sont arrivés, ils n'étaient pas là-bas. J'ai même mes papiers de repos dans mon sac, j'ai pas vu mon sac, j'ai demandé
au tunnel.
Oui,
au tunnel, moi j'ai des papiers chez moi, mais ils sont chez moi. Donc je prendrai en photo et j'enverrai sur le groupe. Ok.
Quand même, moi, c'est plié.
Ah, en rond?
Oui.
Ah, j'ai. Avec un truc de foot?
Oui.
J'ai, c'est chez moi.
Ah,
ok.
C'est ça que j'ai parlé.
Bah, on y va ensemble et une fois sur place ou dans le métro, je prendrai ton nom pour pouvoir te retrouver pour les
deux. Du coup, on va partir ensemble?
Oui, on y va ensemble.
Où on doit aller?
Ah, bah, est-ce que les jeunes, vous voulez expliquer les trois options au variant? En gros, ce qu'ils ont décidé, il y avait trois options. Soit aller dans un parc dans le centre de Paris, à Belleville, donc proche du métro, mais c'est un jardin, avec potentiellement une présence policière aussi. Soit un pont invisibilisé, donc caché, entre Paris et Ivry, c'est à 20 minutes d'ici, où la police peut aussi peut-être venir, mais c'est sous un pont. Et les jeunes ont décidé à majorité d'aller sous le pont.
C'est combien de minutes?
C'est à 20 minutes là.
20 minutes.
Ouais, sur le métro 8.
On va aller ensemble.
Oui, on y va ensemble.
Ok, alors on va
métro 8.
Oui. Bon, est-ce que ça vous va si ici on s'installe, on essaie de coller les tentes là, plus vers là. Est-ce que ça vous convient? Et ah oui, dans une heure, il y a à manger qui arrive. Il y a une association qui vient apporter des plats chauds encore.
Vous avez pu ramasser tous vos piquets?
Ah, d'autres n'ont pas pu ramasser toutes leurs affaires.
Quel est votre prénom?
Moi, c'est Yahya.
Vous venez d'où?
Guinée-Conakry.
Où ça, en Guinée-Conakry?
Dalaba.
Dalaba?
Oui.
Ça se situe où, en Moyenne-Guinée, ça?
En Moyenne-Guinée, exactement.
Et quel âge avez-vous?
Moi, j'ai 15 ans.
15 ans?
Oui.
Vous êtes parti il y a longtemps?
Un petit peu, oui. Septembre. Depuis décembre, je suis venu en France, je sors dehors. Oui.
Et vous attendez toujours votre recours?
Oui, oui, exactement.
Et vous avez une idée de quand vous allez avoir des nouvelles?
Ils m'ont dit qu'ils vont m'appeler.
Les mineurs que vous fréquentez, vous, il y a des Guinéens, j'ai vu, il y avait un Ivoirien.
Oui, il y a les Guinéens à Pont-Marie là-bas, même ici, comme à l'air là, et tout le monde est dispersé, c'est ça.
Quelles autres nationalités?
Il y a les Camerounais, il y a un peu de Sénégalais, il y a des Gambiens, tout Afrique subsaharienne, beaucoup sont mélangés ici.
Vous vous entendez bien entre vous?
Oui, il n'y a pas de problème, on s'entend bien. On n'a pas le moment de faire la guerre ici, c'est pas la peine. On souffre. Oui.
Porte fermée pour nous. Longtemps, dormi dehors. Toujours en bas des ponts, pont de Marie. 6h du matin, les policiers viennent niquer nous, tabasser nous, chercher nous. Wesh!
Oui.
Comment t'appelles-tu?
Ali.
Ali? D'accord. Et de quel pays es-tu?
Côte d'Ivoire.
Côte d'Ivoire. Et depuis combien de temps es-tu en France?
Je suis là depuis novembre.
Novembre, d'accord. Et là, tu dors où, là?
Je dors dans la rue.
Tu dors dans la rue. Depuis le début?
Oui.
Depuis novembre?
Depuis novembre, je suis dans la rue.
D'accord. Entendu.
Ça m'inquiète beaucoup, quoi, parce que je suis là, je suis malade.
Alors ça veut dire quoi, je suis malade?
Je suis malade, tout mon corps me fait mal.
Ah, voilà, tout ton corps te fait mal.
Oui.
Il y a le numéro 2 ou pas?
Vous pouvez peut-être vous présenter?
Ben, moi, je m'appelle Marie-Laurence Mouzel, je suis médecin généraliste, à Médecins du Monde depuis une dizaine d'années, et là, particulièrement sur la question des mineurs.
Où est-ce qu'on se trouve, là?
Donc au square Palikao, en dessous du square de Belleville, où il y a depuis presque un an maintenant des jeunes qu'on retrouve tous les mercredis matins. Il y a Médecins du Monde, il y a les avocats, il y a également la Croix-Rouge souvent qui passe. Quelquefois il y a des petits déjeuners qui sont donnés et quelquefois quelques vêtements qui sont donnés. Voilà, des jeunes qui sont dehors depuis aussi bien 15 jours que plusieurs mois.
Et vous, votre rôle ?
C'est d'essayer de répondre à la demande médicale quand il y a une demande médicale. Soit elle est simple et on peut la résoudre là, soit c'est plus compliqué, on va orienter. On oriente bien sûr sur le droit commun, les PASS en particulier, mais quelquefois des centres de santé aussi de la ville de Paris qui acceptent des jeunes qui n'ont pas encore de droit ouvert. Hein, parce que bien sûr, tous ces jeunes n'ont aucun droit ouvert à l'AME. Que ça n'a pas été fait, même s'ils sont là depuis plusieurs mois. Et puis on oriente un peu aussi sur le plan psychologique, parce qu'il n'y a pas que des problèmes somatiques, il y a énormément de problèmes psychologiques liés à la fois aux raisons du départ, aux conditions de la traversée, aux conditions d'arrivée, à leur solitude, une espèce de détresse quand ils arrivent ici. Il n'y a pas forcément de violence à leur égard, mais il y a une violence institutionnelle qui ne fait que réactiver les autres violences qu'ils ont pu vivre et qui ont soit occasionné leur départ, soit existé au moment de la traversée. Donc on a beaucoup de jeunes qui sont dans des états de psychologiques plus ou moins perturbés, voire détériorés. Donc là, il y a un accueil psy, mais on en voit aussi, si on peut, sur des consultations psy. Ça, c'est très compliqué, mais ils en ont besoin.
Le public, vous dites, ce sont des jeunes, ce sont des mineurs non accompagnés, dont l'évaluation de minorité a été jugée négative.
Voilà, ce sont des jeunes qui sont refusés à la minorité, qui vont faire donc un recours auprès du juge pour enfants. Et ce recours, il peut durer 3 mois, 6 mois, 9 mois. Et pendant cette période-là, ils n'ont aucun droit. Aucun droit. Ils sont ni mineurs, ni majeurs. Donc ils n'ont aucun droit. Bien sûr, à ce qu'une reconnaissance de minorité leur accorderait, c'est-à-dire la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance. Mais ils n'ont pas le droit non plus aux structures pour majeurs, puisqu'ils ont des papiers qui disent qu'ils sont mineurs. Donc il y a une espèce de vide juridique, et ils sont dans une solitude totale, et aucun droit, même pas à l'aide médicale d'État. Ils ont droit à l'aide médicale d'État, mais ils n'ont pas l'aide médicale d'État. Tiens, assieds-toi. Alors, puisque tu es mineur, je te dis tu. Ça t'ennuie pas que je te dise tu ?
Non.
Comme tu es mineur, je te dis tu. Hein ? Bon, moi, je m'appelle Laurence, je suis médecin. Et toi, comment t'appelles-tu ?
Moi, c'est Denis.
D'accord. Est-ce que tu peux me donner ta date de naissance, s'il te plaît ?
C'est le 25, 8e mois, 2008.
2008. Tu es de quel pays ?
Burkina Faso.
Ça fait combien de temps que tu es à Paris, en France ?
Ça fait bientôt 2 mois.
Tu as été refusé pour la minorité ?
Oui.
Oui, tu es en recours ?
Oui, c'est en recours.
Auprès de quel tribunal ?
Et je ne maîtrise
pas. Paris, pour... Paris, oui. Bobigny,
Créteil ? Tolbiac.
Tolbiac, c'est Paris. Oui. Hein ? D'accord. Tu as vu déjà un avocat ?
Oui, ils m'ont donné un avocat.
D'accord.
Oui.
On t'a demandé de récupérer des papiers ? On t'a demandé quelque chose ?
Oui, on m'a demandé d'envoyer l'acte de naissance.
Ton acte de naissance. Oui. Et tu as pu joindre ta famille ?
Oui, oui.
Oui, oui. Tes parents sont vivants ?
Oui, il y a mon frère qui est là.
Ton frère ?
Oui.
Ton papa et ta maman ?
Oui, ils sont décédés.
Tous les deux ?
Oui.
Donc tu as pu joindre ton frère ?
Oui,
c'est déjà, bien. Tu as pu lui dire que tu étais ici ?
Oui.
Que tu étais arrivé. Oui. D'accord ? Oui. Et il va pouvoir envoyer les papiers ?
Bon, il m'a envoyé mon acte de naissance.
Il l'a envoyé déjà.
Oui.
Donc tu as déposé au tribunal.
Oui.
D'accord. Tu vas avoir un rendez-vous avec le juge. Mais avant, il faudra que tu discutes bien avec l'avocat pour bien préparer ce rendez-vous. Il faut bien réfléchir avec l'avocat à la façon dont va se passer ce rendez-vous. Il faut que tu sois prêt. Donc il faut bien que tu... Qu'est-ce qu'il cherche, le juge ?
Bon, ils m'ont rien demandé.
Ils n'ont rien demandé pour l'instant. Mais qu'est-ce qu'il cherche, le juge ? Pourquoi tu vas voir le juge ?
C'est pour faire les demandes des minorités.
De minorité.
Oui.
Il cherche la vérité, le juge. Hein?
Oui,
d'accord ça. Voilà. Et aujourd'hui, tu voulais voir le médecin, pourquoi ?
J'ai mal à la dent.
À la dent ?
Oui.
D'accord.
Oui.
Ces jeunes sont tous en recours, donc en attente de l'audience devant le juge des enfants.
Mathias, médiateur santé à Médecins du Monde.
Il faut savoir que certaines associations se sont essayé de se renseigner sur quels jeunes en fait seraient reconnus mineurs à terme après plusieurs mois de rue. Utopia 56 avait fait un campement en 2022 sur lequel 197 jeunes avaient été rappelés pour savoir ce qu'il en était un an après de leur demande de minorité. Il faut savoir que sur 197, il y en avait 125 qui ont été reconnus mineurs, donc environ 63%. Ce qui souligne quand même que l'État, la mairie, sait que la plupart de ces jeunes sont en réalité mineurs devant la justice, enfin le seront du coup. Et donc ces instances-là sont délibérément en train de laisser des jeunes dans les rues parisiennes et dans les rues de plein de villes françaises qui dégradent du coup leur santé, qui dégradent du coup leur entité.
En fait, on est dans une zone grise, un peu une zone de non-droit, contre laquelle nous, avocats, on essaie de se battre aujourd'hui en essayant de trouver des recours et des contentieux spécifiques pour que ces jeunes soient mis à l'abri pendant le temps du recours.
Emma Eliakim, avocate, membre de l'antenne des mineurs au barreau de Paris.
C'est-à-dire saisir les tribunaux administratifs en référé liberté, donc c'est des procédures d'extrême urgence, en indiquant que le département a fait une erreur dans son appréciation de la minorité du jeune, que donc ce jeune doit bénéficier d'un hébergement le temps de la procédure. Ça marche parfois. Enfin, l'objectif, en fait, c'est que ces jeunes, à terme, bénéficient d'une présomption de minorité pendant tout le long de la procédure, comme le comité des droits de l'enfant l'exige, et comme c'est le cas, par exemple, pour des demandeurs d'asile en procédure qui, tout le long de la procédure jusqu'à la décision finale, eux bénéficient d'un hébergement et d'un accompagnement social. Et on ne comprend pas pourquoi des mineurs, eux, n'en bénéficieraient pas.
Est-ce que tu as un recours en cours ?
J'ai un recours sur moi.
Le papier, s'il te plaît ?
Il y en a sur moi.
Ah oui, ok. Donc, est-ce que tu as compris ce que ça veut dire ?
En fait, ils nous ont expliqué ce jour, pour ceux qui avaient la tête posée, ils nous ont expliqué de savoir que le rendez-vous, c'est pour pouvoir te faire communiquer avec un avocat.
C'est ça.
Qui pourra prendre soin de ta procédure.
C'est ça, exactement. Donc en fait, tu as eu un rapport d'évaluation qui a considéré que tu n'étais pas mineur. Et tu as le droit de contester et d'apporter les preuves que ce qu'ils disent n'est pas vrai et que tu es vraiment mineur. Et donc là, le papier qu'ils t'ont donné, c'est pour le rendez-vous avec l'avocat. Comme c'est pas tout de suite... Est-ce que toi, tu as reçu déjà des documents d'état civil de ton pays ? Tu viens de quel pays ?
Je viens du Cameroun.
De Douala ?
Douala, oui.
Ouais. Est-ce que tu as demandé à des gens de ta famille ou des amis à Douala de t'envoyer ton extrait d'acte de naissance ou des documents d'état civil ? Tu as déjà fait la demande ?
Déjà, j'ai bien précisé dans mon évaluation ce jour que moi, j'ai des problèmes depuis mon enfance. Je n'ai jamais eu mon acte de naissance dans ma main. Depuis que j'ai perdu ma maman, je ne sais pas comment ça s'est passé. J'ai bien vu une famille, mais au fait, il faut qu'on comprenne des choses. Ma famille, elle est vraiment divisée, elle est vraiment séparée, elle est en guerre. C'est pour cette raison, déjà, moi, j'ai libéré le Cameroun. Parce que je disais déjà, je ne trouvais pas un avenir pour moi. Il fallait toujours que tu passes une journée ici, tu passes une journée de l'autre côté, comme un bagage, tu vois un peu ce qu'il dit. Ma famille, depuis que ma maman est morte, je ne sais pas si elle a eu à faire un acte de naissance pour moi. Je n'ai jamais vu ça.
Tu ne sais pas si ta maman a déclaré ta naissance, c'est ça ?
C'est ce que je vais dire.
Okay.
C'est en se renseignant et en apprenant et en rencontrant ces jeunes-là qu'on arrive à comprendre et à s'ouvrir. Et que, en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'a priori sur des... prétendu faux mineur qui arriverait et qui viendrait faire passer pour des mineurs pour pouvoir venir immigrer en France. En réalité, quand on les rencontre, quand on voit leur parcours, quand on voit ce qui les a amenés ici, quand on voit la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que c'est surtout de la détresse, des jeunes qu'il faut accompagner et qu'il faut aider, parce que c'est le rôle des autorités et, je pense, la responsabilité de la France qui se prétend pays des droits de l'homme et respectant les droits de l'enfant, alors qu'en réalité, on fait dormir des enfants dans la rue tous les jours.
Alors, une fois que ces jeunes sont considérés administrativement comme majeurs, ils formulent un recours. Comment ça se passe ?
Alors, à Paris, la façon dont ça se passe, c'est que nous, avocats, on tient une permanence au tribunal et on fait le recours, donc on rédige une requête avec le jeune. Mais l'idée, c'est qu'il faut qu'ils manifestent leur souhait de contester la décision du département et de saisir le juge des enfants pour que ce soit le juge des enfants qui statue sur leur minorité.
Alors, que doivent-ils prouver qu'ils n'ont pas réussi à prouver devant l'évaluateur de France Terre d'Asile qui a considéré qu'ils étaient majeurs ?
Alors, très souvent, à Paris, c'est des jeunes qui n'ont pas forcément montré les originaux de leurs documents d'état civil. Et c'est un des éléments sur lesquels les juges se fondent principalement, c'est les documents d'état civil. Et de manière subsidiaire, si le juge n'est pas convaincu par ces éléments, si l'avis sur les documents d'état civil est défavorable, si les arguments de l'avocat n'ont pas convaincu, s'il reste un doute, il peut ordonner un examen d'âge osseux, qui sont des radios passées à l'hôpital. En général, c'est une panoramique dentaire, une radio du poignet, et maintenant, ce qui se fait beaucoup, c'est une radio de la clavicule. Donc, trois examens qui sont très contestés, hein, et par les avocats et par toutes les associations qui travaillent avec les mineurs isolés. D'abord, parce que ça les expose à des radiations inutiles, et parce que c'est très peu fiable. Les résultats de ces tests, on sait qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas été testés sur des populations africaines qui sont les populations majoritairement en recours en qualité de mineurs isolés. Et la marge d'erreur, même sur les populations testées, est en général de plus de 4 ans. Sur l'expertise documentaire, la majorité des expertises documentaires, elles arrivent défavorables. Parce que c'est des documents d'état civil qui sont considérés comme non sécurisés, puisque c'est des jeunes qui, la majorité du temps, ne présentent pas des passeports ou des pièces d'identité, qui viennent de pays dont la France considère que leur état civil n'est pas forcément très fiable. Et il faut quand même avoir en tête qu'en fait, récupérer des documents pour un jeune, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent de les faire au pays, ça coûte de l'argent de les faire venir en France, et ça coûte de l'argent de les faire surlégaliser. Et si c'était l'État qui finançait cette surlégalisation, il y aurait probablement beaucoup plus de jeunes qui parviendraient à être placés.
Ce que le juge recherche, c'est quelque chose d'objectivable.
En fait, ils veulent avoir un élément sur lequel fonder leur décision, un élément entre guillemets juridique, et en fait avoir un expert qui prenne entre guillemets la décision pour eux, puisqu'on le voit. Ça permet, hein, d'une certaine manière, au juge des enfants de ne pas faire peser la décision sur ses seules épaules.
Salut, ça va ?
Ça va, Traoré, 38.
Bonsoir.
Ouais.
Bonsoir.
25. Zalou Ismail. Ouais, vas-y.
Numéro 9.
Numéro 9. Zoumordine.
Allez,
vas-y.
28.
28.
Yann Manzi, cofondateur d'Utopia 56.
Où est-ce qu'on se trouve ?
On se trouve dans un lieu à côté du Père Lachaise, dans le 20e arrondissement. C'est un lieu qui a été prêté par un promoteur immobilier, 800 mètres carrés, qui nous permet de mettre 170 personnes à l'abri tous les soirs.
Dont 70 mineurs non accompagnés.
C'est ça, 70 mineurs et une centaine de personnes en famille. Femmes, bébés, enfants, femmes enceintes et jeunes filles en recours.
On peut visiter ?
Allez. Alors là, c'est notre lieu où on dort, les équipes salariées et les équipes bénévoles. Donc on dort là et puis on fait des rondes toute la nuit. Donc là, c'est notre petit squat à nous.
Qui est aussi la cuisine ?
C'est aussi la cuisine pour réchauffer les plats des personnes exilées s'ils en ont besoin. Ouais.
Donc là, on va aller dans l'espace des jeunes garçons en recours, les mineurs. Ah, ça a sauté. Donc là, tu vois, c'est leur petit coin où ils prennent leur café, leur petit coin toilette, et leur petit coin détente, quoi. Donc comme ça, ils ont quand même un petit coin en plus de leur coin de sommeil. Et donc, tous ces jeunes-là vont passer plusieurs mois à la rue avant de voir le juge. Ça peut être entre 4 mois et 14 mois, voire 16 mois pour certains.
Et puis derrière, là, ils ont un petit moment, un petit répit dans ce lieu, quoi.
Sachant que là, il y en a 60, 70.
Ouais, il y en a 70 et puis il y en a des centaines et des centaines dehors, quoi. Parce qu'on ne peut pas faire pour tout le monde, malheureusement. Si on avait plusieurs lieux, on pourrait faire. Mais là, aujourd'hui, on n'a pas les moyens de faire plus que ce qu'on fait aujourd'hui, quoi. Donc c'est pas non plus formidable ce qu'on propose, mais par contre, ce qu'on essaye de montrer aussi au travers de ces dispositifs, c'est que on pourrait, avec la réquisition des bâtiments vides en France, imaginer qu'en fait, il n'y aurait personne à la rue. Alors c'est pas un confort maximum, mais c'est ce qu'on appelle, nous, le confort aux normes HR. C'est les normes internationales qui existent dans les camps du monde entier.
Donc le Haut Commissariat pour les réfugiés.
C'est ça. Donc pourquoi en France, soi-disant, on n'arrive pas à faire ça, alors que dans le monde entier, dans tous les pays pauvres, on arrive à faire un premier accueil pour les gens qui fuient la guerre ou une catastrophe climatique. On arrive à monter des dispositifs. En France, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une réelle volonté. Bonsoir les gars. Il y a une réelle volonté de ne pas les accueillir, en fait. Et surtout de passer un message. Ne venez pas, regardez comment on vous accueille. Et l'accueil par le trottoir, c'est ce qu'on dénonce depuis des mois et des années. C'est une volonté politique.
Est-ce que, Yann Manzi, vous pouvez nous décrire la pièce ?
Bah là, c'est, on est sur une pièce de 250 mètres carrés où on a disposé des matelas par terre. Et les jeunes vont être à deux par tente, dans un lieu qui n'est pas chauffé. Hein, mais à l'intérieur, il y a des couettes, il y a tout ce qu'il faut. C'est des jeunes qui vont être là que pour la nuit. Parce que la journée, on les réoriente ailleurs, parce qu'on n'a pas la possibilité de gérer ce lieu 24 heures sur 24.
Donc dans la journée, c'est accueil de jour.
Alors dans la journée, c'est un peu compliqué pour les mineurs, parce que les mineurs, justement, comme ils sont pas mineurs, comme ils sont pas majeurs non plus, ni mineurs ni majeurs, c'est ce qu'on appelle les ninis, ni mineurs ni majeurs. Et ben ces jeunes, en fait, derrière, ils vont être en errance la journée aussi. Donc là, on les réoriente dans les bibliothèques, dans les gares, dans les différents lieux où ils peuvent au moins ne pas avoir froid, en fait. Et le soir, on leur redonne un rendez-vous et ils réintègrent le lieu pour passer la nuit.
Nous sommes le 31 mars 2024. C'est la fin de la trêve hivernale. Que se passe-t-il demain ?
Bah, pour nous aussi, c'est la fin de ce lieu, parce que le propriétaire vend ce lieu et donc nous l'a mis à disposition pour quelques mois seulement. On aurait besoin de lieux comme ça, multiples, pour pouvoir durer toute l'année. Et ben, nous, c'est comme la fin de la trêve hivernale. Demain, c'est fini. Donc demain, on se retrouve avec tous ces jeunes et toutes ces familles de retour à la rue. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on va rester avec eux. Et on va continuer à demander des mises à l'abri pour toutes ces personnes.
C'est fini ?
C'est fini.
Votre prénom, c'est ?
Younes Nabil.
Vous venez d'où ?
Cameroun.
Quel âge avez-vous ?
J'ai 17 ans.
D'ici maximum 30 minutes, on va faire une réunion. On va tous discuter ensemble de ce qu'on va faire demain, avec la manifestation, etc. Et comment demain matin, on va s'organiser aussi.
Pauline,
okay.
Salariée à l'association Utopia 56.
Ok, on n'a pas... Quand on n'a pas le choix... On n'a pas le choix. Je ne sais pas quoi vous dire, parce que c'est quand même difficile. C'est que nous, on se retrouve toujours à la rue. Donc voilà. Il faut que je sors, je commence à demander, à mendier, je dis que pardon, donne-moi un euro. Non, ce n'est pas de ma nature. J'ai honte de demander. J'ai honte de demander. Je ne suis pas un clochard. Je ne suis pas un clochard. C'est très dur pour nous. Tu peux te laver une seule fois par semaine. Là où je vous parle, tout mon corps, ça gratte. Hein. Ça gratte. Donc, et quand il fait un peu chaud, là, tout mon corps, ça pique. Hein. Ouais. Vraiment, c'est difficile pour moi. C'est difficile. Il y a beaucoup qui sont devenus fous dans la rue. Devenus fous, c'est quand tu peux commencer à te déshabiller. Par exemple, comme moi, quand je ne me suis pas lavé, quand mon corps commence à gratter là, il faut que j'enlève les habits, même si je suis devant les gens là. Il faut que je gratte. Bon voilà. Devenu fou que quand tu réfléchis beaucoup. Bon, tu commences à perdre, on dit quoi
la tête.
Oui, perdre une vie.
attends, ok? Je sais que vous avez déjà eu l'info, je sais que ça va pas être facile, mais ce soir, c'est la dernière nuit où vous pouvez dormir ici. C'est non négociable. Tout simplement parce que le propriétaire des lieux, demain, il reprend son lieu, on vide tout, on part. C'est ce qu'on vous a dit dès le début quand vous êtes arrivés, 31 mars, dernier soir. Là, juste, on fait une réunion pour s'organiser, pour que je vous explique comment ça va se passer. Demain matin, c'est comme d'habitude. Il y a un réveil à 8h, il y a un petit déjeuner comme d'habitude, ok? Ensuite, il y a des bénévoles qui viennent, qui peuvent vous aider à plier votre tente, plier vos affaires. Le truc, c'est que tout ce que vous laissez ici, ça va être jeté. Ensuite, on va vous donner une tente pour 2 personnes, plus 2 couvertures, ok? Est-ce que pour ça, tout le monde, c'est clair pour tout le monde? Oui? Ok, super. Ensuite, pour là où vous allez dormir, du coup, nous, on n'a pas de solution d'hébergement. Encore une fois, c'est un retour dehors. Donc, nous, on a repéré des spots où on vous conseille d'aller. Encore une fois, on n'est jamais sûr de ce que ça va donner. Mais voilà, c'est ce qu'on a repéré avec le pôle mineur de Utopia. Et on vous donnera toutes les consignes quand on vous donne la tente. Ok? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions?
Oui.
Dis-moi.
C'est pas question, on va s'exprimer.
Deux secondes, les gars. Je finis juste et après, Oscar, je te donne la parole. Juste pour que vous sachiez aussi demain, en termes de mobilisation, si vous n'êtes pas content, que vous avez envie de crier, parce que la vérité, c'est pas Utopia qui vous met dehors, c'est l'État qui ne s'occupe pas de vous et qui ne vous héberge pas. À 15h30, à Bastille, il y a une manifestation avec le collectif du droit au logement. Vous pouvez y aller. Si l'après-midi, ça ne vous arrange pas, c'est possible d'aller à un rassemblement à 18h à l'hôtel de ville pour demander une mise à l'abri. Il y aura Utopia sur place, il y aura des soutiens sur place, il y aura des distributions de thé, café. Si vous voulez y aller, pareil, je vous encourage à y aller. En fait, si vous n'êtes pas content, c'est le moment de vous saisir de cette occasion, d'aller à l'hôtel de ville et de dire que ça ne vous va pas et de demander une mise à l'abri à l'État. Okay.
Moi, je propose ceci. Demain, quand vous allez nous mettre dehors à 11h, on n'a pas besoin d'emballer les tentes. Nous allons une fois. On n'a pas besoin d'aller attendre 15h pour aller manifester. Ça veut dire qu'on a où, on a où se reposer pour venir à 15h. On n'en a pas.
Oui. Mais du coup, en vrai, si vous voulez vous organiser entre vous, genre en solidarité, en parler, c'est full ok. Et je vous encourage vraiment à le faire. Enfin, c'est qu'ensemble que vous allez réussir à quelque chose.
On commence notre marche ici. On n'a pas besoin qu'on nous voit seulement à l'hôtel de ville. Je crois qu'il y a les postes de police partout. Arrivé à l'hôtel de ville, on installe nos tentes. C'est la seule place où on peut s'installer. Et si vous voulez, devant la mairie, on installe nos tentes. On aura nos tentes à main.
En gros, si vous commencez une manifestation dans la rue comme ça et que vous êtes 15, vous c'est sûr que vous allez vous prendre un camion de police qui va vous emmener au commissariat. C'est
un comme moi. Si tous les jeunes qui sont ici sont comme moi. Moi, je m'en fous de la police française maintenant. Nous, on n'a plus peur de la mort, hein. Là où nous, on a laissé nos confrères dans des océans, ouais, dans des déserts. Sincèrement, ce qui m'effraie maintenant, c'est mon acte de naissance qui est entre vous. Mais quand je dis vous, c'est toute la France. La souffrance, moi, j'en ai vu. Mais à cet instant, je refuse de dormir. Je refuse de mourir à petit feu. Peut-être que ces policiers-là, ils vont nous mettre dans les cellules. La cellule, au moins, c'est un toit.
Oui, c'est même mieux. Je préfère aller en cellule.
La rue est différente de la prison.
C'est pas différent.
Je vais vous dire une chose. La rue déroute plus que la prison. En prison, tu as peur, tu es contrôlé au moins. Mais si on va te taper le matin et le soir, tu es contrôlé. À la rue, tu as une liberté totale.
Tu fais ce que tu veux en prison.
Tu as abandonné à toi-même.
Moi, je suis d'accord. Moi,
depuis que je suis, vous m'avez jamais entendu parler, moi je parle pas. Moi, j'ai ouvert quand ça me fait mal. Parce que là, au fond de moi, je suis crevé.
Quand je suis venu en France, pense à mes problèmes, j'allais trouver la solution. Plus les jours passent, négo fait qu'il est tombé en dépression. C'est quand t'es face à l'amour qui t'apprécie la vie. Pourtant nos vies sont comme la mèche dans une bousille. Quand j'ai croisé l'amour, pourtant elle m'avait esquit. Le futur m'a appelé, j'ai survécu. Certains sont partis, d'autres ont resté. Ceux qui sont nous noyés étaient plus nombreux. Dans le désert ensoleillé, d'autant fin assoiffé. Loin de les amis et la famille, le temps s'en va, le temps s'en va. Les morts ne reviendront jamais. Le temps s'en va, le temps s'en va. Les mauvais souvenirs sont là. Si t'as fait un choix, tu vas devoir assumer. Putain pour le reggae, mes larmes vont pas couler. T'attaches pas ma bille, mon cœur est déjà piraté. Quoi qu'il y ait Vigo, on va y arriver. Parce qu'on est déterminé. Quoi qu'il y ait Vigo, on va y arriver. Parce qu'on est déterminé. Quoi qu'il y ait Vigo, on va y arriver.
Il faudrait que l'État sache que notre arme, c'est la solidarité. Il faut que la mairie sache que notre arme, c'est la résistance. Tant qu'il n'y ait pas la présomption de minorité pour les jeunes, tant qu'il n'y a pas une solution très adéquate pour les jeunes, les autres vont continuer à lutter. Les jeunes réclament de leurs droits, que ce soit le logement, l'éducation, la santé, ne sont pas des délinquants. On veut aller à l'école, c'est notre droit. Vous dites que la France est un pays de droit. C'est la liberté, la fraternité, la solidarité ou quoi déjà. Moi, ça m'énerve d'entendre cette devise. Cette devise n'est pas respectée. Ça se voit pas. Ça se voit pas. Tant qu'il n'y a pas de solution, les jeunes vont continuer à lutter. Ils ne se rendaient pas compte que les jeunes pouvaient s'organiser comme ça. Peut-être que c'est la première fois qu'ils voient cela. Ça les étonne que les jeunes s'organisent comme ça. Ça les étonne que les jeunes fassent des rapports de force pour trouver des solutions pour eux-mêmes.
Bravo.
Fousseni, vous êtes originaire de Guinée et du Mali. Vous avez 16 ans, vous êtes membre du collectif des jeunes du parc de Belleville. Qu'est-ce que c'est que ce collectif ?
Ce collectif, les jeunes du parc de Belleville, c'est un collectif militant qui s'est mis en place depuis le mois de juillet pour sortir les mineurs non accompagnés ou les MENA qui sont à la rue depuis des mois et des mois. Et on a mis ça en place pour revendiquer les droits des mineurs, qui est l'éducation, la santé, le transport, pour tous et toutes.
Mais vous, personnellement, Fousseni, à quel moment vous vous dites « il faut que je m'engage » ?
Là, c'est quand tu es à l'errance totale, tu es dans une difficulté, et qu'il y a un autre collectif militant qui vient te dire « nous, on a obtenu tant de choses à travers la lutte, on a obtenu ça, à travers la lutte. On ne vous force pas de le faire, mais c'est une manière de vous sortir dans cette difficulté. Donc si vous voulez obtenir des choses, on peut mettre un collectif en place pour interpeller les institutions qui vous ont mis à la rue. C'est là que les jeunes se sont engagés, mais pas tout le monde, parce que vu des enjeux politiques, ils se disent ça va jouer à ma minorité, ça va poser des problèmes, mais tout le monde a la vie politique en eux, quoi.
Est-ce qu'il y avait votre caractère, est-ce qu'il y avait des prédispositions pour que vous vous engagiez comme tel? Et quand je dis comme tel, c'est que dans les manifs, c'est vous qui avez le mégaphone.
Il y a le caractère, l'éducation et tout machin qui se pose déjà, parce que il faudrait aussi que tu aies l'éloquence, il faut quand même avoir l'art de convaincre les jeunes, faire passer les messages et les revendications les plus nécessaires et les plus visibles que les jeunes réclament, quoi. Depuis que j'ai fait ma première prise de parole, le collectif dit, voilà, nous on te prend comme le porte-parole du collectif, là, il faut t'engager. Tu as l'art de parler, tu n'as pas la flemme ou tu n'as pas la truie de parler devant centaines de personnes, parce que le premier jour que j'ai interpellé Anne Hidalgo, non mais j'étais arrêté là, je regarde tout le monde, je tremblais même. Mais c'est là que j'ai dépassé ma peur, parce que j'ai dit, si j'ai pu interpeller la maire de Paris, là je peux interpeller tout le monde.
Bespeke,
gang, la famille française, wow. La belle 96, 97, Benz musical, Parisien toujours là dans la street. Est-ce que tu connais Khalifa, wow. Wyclef Negro, Young Thug et Tergal, Juppé Spartaki, so. J'ai la joie, avec la BSB, je suis meilleur comme Lionel Messi, dans la ville de Paris, Panam Age. Pendant la nuit, j'ai weed avec les sky, dans les tours Eiffel, yeah. Si on voit des gaffes, on fait des tri, 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 fort.
Reste ici,
Il y a maintenant des jeunes qui avaient peur de manifester ou qui avaient peur de lutter. Ils commencent à sortir de leur cachette. Ils commencent à se rendre compte que, ouais, vraiment, si on a eu cette place-là, c'est grâce à des luttes. Donc, la lutte a de l'importance. Ça paye aussi.
On est ensemble. Afro Gala, équipe toujours. Les jeunes millionnaires. SBK, Panam Gang, Monaco Steel. Les chaînes barons, leader en force, Paris c'est magique, on met des milliers de derrière les bams, c'est la famille.
Je suis resté à Paris, passer sur mon rêve d'enfance, depuis petit. Mon rêve, c'est de venir à Paris, rester ici, gagner mes papiers, vivre à Paris tranquillement.
Chaque fois qu'ils font une expulsion des campements, nous, si on fait, on réplique directement, on fait une occupation. Quand ils ont démantelé encore à Gare de Lyon, le tunnel Villon, qui était le plus grand campement de Paris, là, il y a des centaines de jeunes qui sont à la rue. Le collectif des jeunes du parc de Belleville, ils ont envisagé de faire une occupation qui était au 104. On l'a fait, on a reçu et obtenu des places aussi pour les jeunes qui ont été cherchés sous les chaînes. Et maintenant, à chaque fois qu'ils répliquent, nous aussi, on passe directement au rapport de force.
Est-ce que vous êtes optimiste pour la lutte ?
La lutte, moi personnellement, je suis optimiste là-dessus. J'ai l'espoir parce que depuis le mois de décembre que j'ai rejoint le collectif, on a gagné plein de choses. D'interpeller les institutions, aller devant les responsables, dire que les jeunes maintenant, actuellement, ils font passer leur propre voix. Ça, c'est l'espoir. Ça visibilise la situation parce que avant, ils ne s'attendaient pas que les mineurs pouvaient se lever en disant on ne laisse rien aux associations maintenant, on monte notre propre collectif de lutte, on va lutter. Parce qu'avant, c'est les associations qui représentaient les mineurs, même dans la négociation, qui s'asseyaient, ce sont des jeunes mineurs, il faudrait que vous les aidiez. Maintenant, c'est des jeunes qui s'asseyent avec les soutiens. On dit les associations, vous voulez les luttes. Rejoignez-nous les collectifs, on va faire la lutte ensemble, on pourra gagner ensemble. Mais si vous partez, vous n'arrivez pas à faire le rapport de force comme il le faut, mais vous allez négocier comment? C'est nous qui subissons l'errance totale, c'est nous qui subissons le harcèlement policier, nous sommes à la fin. La fin, c'est insupportable. Donc si on est face à eux, on va faire passer nos couleurs, on va faire passer le vrai message. Tu connais ce que tu subis à la rue, tu es dans une difficulté insupportable. Là, si tu es devant l'institution, là, tu te déballes rapidement, tu leur dis ce que tu as à dire et ils vont quand même voir ta colère, ils vont voir que ouais, tu es dans la difficulté. On a fait un rassemblement deux fois au rectorat. On a interpellé le rectorat de Paris pour l'éducation. On a été reçu en délégation. On a parlé. Le lendemain, ils ont ouvert le site de rendez-vous. Actuellement, il y a plus d'une quarantaine de jeunes qui ont eu des rendez-vous au Cazeneuf pour l'école. Donc ça veut dire qu'il y a des solutions, mais il faut passer au rapport de force pour l'obtenir.
Il y a nous qui ne sommes pas reconnus mineurs, pas non plus majeurs. Et qui sommes-nous? C'est trop compliqué notre situation. Plus pire encore, nous vivons encore des racistes féminines. On n'a jamais vu de mineurs filles abandonner la rue sous prétexte non, ils sont non accompagnés. On n'a jamais vu ça. Il n'y a que les racistes de race noire que non, des mineurs ne sont pas accompagnés, ne sont pas reconnus comme mineurs. Il n'y a que ça de race noire. Et on en a marre, on n'en veut plus.
Comment vous avez connu le collectif des jeunes de Belleville?
Alors moi, je les ai connus grâce à des associations.
Milord, 16 ans.
J'entendais parler de groupes, des événements, tout là.
Membre du collectif des jeunes de Belleville.
Mais je n'ai jamais eu du courage d'y aller parce que je me sentais seule.
Vous me disiez qu'au début, vous aviez peur de vous engager dans la lutte parce que vous étiez une fille et qu'il n'y avait que des garçons.
Ouais, bon, j'avais pas trop peur, mais j'avais honte.
Honte?
Oui, j'avais honte. Je me disais, celui-là, il y a beaucoup de garçons. Mais quand je suis entrée là, je retrouve toujours que je suis la seule fille. Même s'il y a des filles, ben, c'est moi qui prends la tête au milieu des garçons. Et puis quand je parle, ils sont très contents pour moi. Ils disent, vas-y, c'est toi qui vas aller, c'est toi qui vas aller. Et parfois, ça me fait trop du bien. Ils me disent, Milor, c'est toi qui vas parler. Ben, j'avais trop honte, mais là, ils sont... Ah, c'est super. Mais tous les garçons, ils m'encouragent beaucoup. Ils sont trop contents aussi.
Ils sont sympas?
Très sympas, même.
Qu'est-ce qui vous a décidé de vous engager politiquement?
C'était d'abord l'injustice qu'on a subie d'ailleurs.
L'injustice?
Oui. Ça nous a traumatisé la tête. On s'est décidé de tout affronter. Tous ces pluies-là qu'on a passées au dehors. Personne ne s'occupait de vous, personne ne s'est rendu compte de nous. Ça a révolté nos esprits. On s'est engagé à y mettre la tête. Et à chaque fois que je prends la parole, je parle des filles, je parle à tout ce qu'on a subi dehors, et ça me révolte, je me sens capable de parler, et puis de parler autre.
Qu'est-ce que vous leur dites à la mairie de Paris?
Premièrement, d'abord, on revendique nos droits, étant qu'ils mineurs dans ces pays, et on demande toujours qu'ils prennent soin de nous comme ils le font avec les autres, et surtout avec leur système fascisme, racisme, tout là.
Le fascisme, tel que vous l'appelez, le racisme, c'est des choses que vous connaissiez quand vous étiez au Congo avant?
Là, moi, dans mon pays, je ne considérais pas trop la valeur de la chose, quoi. Mais ici, quand je suis venue, j'ai réalisé, oui, c'est moi qui subis ça maintenant, là. Ça a de l'impact, quoi. Et si vous partez même là-dehors, en regardant tous les immigrants qui ont fait leur demande de minorité, vous ne verrez pas de la peau blanche, d'ailleurs. Vous ne les verrez pas.
Donc vous avez pris la mesure de ce qu'était le racisme ici en France. Et le fascisme, c'est quoi? Parce que ça fait partie des slogans.
Bon, c'est un système politique.
Pourquoi vous rigolez, Milor?
Parce que je suis persuadée, je ne m'entendais pas à ce genre de questions. Je ne savais pas l'expliquer là.
C'est une forme d'injustice, en tout cas.
Oui. Injustice politique. Voilà.
Est-ce que le fait de vous engager pour la défense de vos droits, ça vous fait du bien?
Oui, ça me fait du bien. Avant, ça me faisait un peu peur. Je me disais, ça pourrait compliquer mon procès, tout là. Et l'autre fois, j'ai parlé avec mon avocat. Ben, je n'avais pas dit ce que je fais réellement, mais j'ai dit c'est une question de curiosité. Qu'est-ce que j'ai droit ici en France? Qu'est-ce que je n'ai pas droit ici en France? Elle m'a essayé d'expliquer. Ça, tu peux faire, tu as droit. Ça, tu peux pas faire, tu as droit. Tu peux revendiquer tes droits tant de fois que tu peux. Tant que tu n'as pas posé la main sur quelqu'un ou si un policier, tu restes encore dans la raison. Et après tout ça, ça m'a encore motivée. Je n'avais plus peur.
Bonjour à tous. Nous sommes très contents de nous rassembler ici à une manifestation très 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 nécessaire pour nous. Pour les gens qui ne savent pas, nous sommes des jeunes mineurs de la collectivité de Belleville. Quel est notre but ici? Nous sommes des jeunes mineurs isolés que l'État ne veut pas nous reconnaître. Nous avons besoin de vos soutiens, nous avons besoin de logements, nous avons besoin de reconnaissance des minorités, nous avons besoin de... Nous avons besoin d'être scolarisés, nous avons besoin de transports, nous avons besoin de vivre dans de bonnes conditions comme tout Français ici. Nous sommes très contents. On en veut plus, on en a marre. On en a peur, on en a peur, on en a marre. Trop. Nous sommes forts, nous sommes forts parce qu'on est ensemble. Merci à vous.
Votre engagement, il consiste donc à interpeller la mairie de Paris. Qu'est-ce que vous faites d'autre? Des manifs?
Oui, on fait du manif et souvent on fait des convocations aussi à la rencontre de la mairie. On l'a fait plusieurs fois, la mairie nous dit qu'il c'est pas lui de résoudre certains des cas de problèmes, c'est à la préfecture.
Et la préfecture vous dit que c'est la mairie de Paris qu'il faut voir?
Ouais, la mairie de Paris nous dit c'est pas nous, c'est la préfecture. La préfecture, non, c'est pas nous, c'est la mairie. C'est trop bizarre. Bon, on baisse pas les bras, on va continuer à manifester, à crier, crier à ce que tout le monde attende et que tout le monde soit aussi impliqué. Et c'est déjà aussi intéressant parce qu'au début, la personne ne s'est rendue compte de nous. Et là, il y a des gens qui viennent, des journalistes qui cherchent à vous parler, à vous connaître. C'est, ça devient intéressant. Tout le monde s'est impliqué.
Et vous avez aussi appris que la lutte collective, c'est compliqué.
Trop compliqué. C'est trop compliqué. Il y a des pires moments, il y a des incompréhensions, il y a la fatigue, il y a tout. Et c'est la lutte. La lutte reste la lutte. Ce n'est pas des conditions favorables, quoi. C'est la lutte.
Parce que dans cette lutte en particulier, il y a aussi la nécessité de dormir au chaud et de manger tous les jours.
Oui, de manger tous les jours, de se laver tous les jours. Ouais.
Qu'est-ce que vous souhaitez, vous, Milord?
Bon, moi, premièrement, je veux qu'on me reconnaisse comme mineur. Je veux être logé, vivre dans de bonnes conditions, du soin de santé, faire mes études, tout ce que j'aime.
Quelles études vous avez envie de faire?
Depuis au pays, je me disais, si je ne fais pas la médecine ou la science infirmière, je vais faire la politique.
Ben, finalement, c'est ce que vous faites, là. Vous êtes à la meilleure école.
Ouais, ça m'a rattrapé autrement.
Donc, faire de la politique, ça veut dire aller au lycée et ensuite aller à l'université.
Oui, oui. Si j'ai la chance. Oui. Si j'ai la chance, j'y vais.
Est-ce que il y a une musique que vous écoutez quand vous êtes ici en France?
Oui, souvent ce sont des musiques chrétiennes. Quand je l'écoute, je me sens, ouais, j'ai encore de l'espoir.
Par exemple?
C'est une chanson de mon pays, de Mama Chabani. Elle chante en lingala, Yaweku Mama. Elle dit, Dieu, il est le père des orphelins, il est responsable de ceux qui sont abandonnés.
Et ça, ça vous parle?
Oui, ça me parle et puis ça me fait trop du bien. Je me sens, ouais, il y a encore de l'espoir.
Vous pouvez nous le fredonner?
Que je chante? Je l'ai chanté en lingala. Il dit... Oloba ki tole la pona yote, tole la pona biso na banana biso, na ndela ekulusu. Papa to komi pe kolela, to boti ba kondinde yamboka, to boti ba sali na nzambe. Papa pasiele ki mingi, kitande yo sale. So ki motema e baby, e senwe zali aya, po kuna na lola, banaje ba kumama. C'est trop long la chanson, faut faire passer un peu.
Qu'est-ce qu'il y a?
J'ai dit la chanson elle est trop longue, faut faire passer un peu.
C'était Jeunesse africaine en exil, épisode 3, Ni mineur ni majeur, des enfants à la rue, un documentaire de Raphaël Kraft réalisé par David Jakubowiez. Avec Owen, Paul Alozi, Nicolas Posner, Alice, Yaya, Ali, Marie-Laurence Mouzel, Denis, Mathias, Emma Eliakim, Aurélia Huet, Pauline, Yann Manzi, Younes Nabil, Oscar, Fousseini, Milord et les interprétations originales de Mahamat, Aboubakar et Jérémy Pedro. Mixage Manon Houssin, chargée de programme Marivonne Abolivier et Anaï Morales, coordination Johanna Bedeau. Les pages web sur le site de France Culture et le podcast sur l'appli Radio France.
C'est trop fort.
Allô, 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 allô Thank you.